Aujourd'hui, le gouvernement français s'inquiète fortement de l'équilibre budgétaire de la France pour cette année. Le risque, c'est que la France se retrouve sans financement pour rouler sa dette. Nous parlons à minima de 300 milliards pour le budget de l'État tout de même. Le déficit budgétaire de la France est structurel et il n'y a aucun espoir de le résorber. D'après ce tableau, la France fait face à une tendance lourde d'aggravation des déficits depuis 50 ans. Pour renverser cette tendance, il faudrait donc un choc qui remettrait en cause le fonctionnement fondamental du pays à l'échelle d'un demi-siècle. Or, aujourd'hui, le gouvernement lutte pour trouver péniblement 10 milliards tout mouillés lorsque le sujet, c'est 300 à 400 milliards. Au contraire, la France semble bien mettre le cap sur une forme d'économie de guerre. On n'est donc pas du tout dans le bon sens. Une situation plutôt inquiétante, on en conviendra. La mauvaise nouvelle, c'est que votre épargne se trouve sur le chemin du remboursement de la dette. La bonne nouvelle dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'il y a des moyens simples pour s'écarter des grandes autoroutes de la saisie de votre épargne que représentent les comptes bancaires courants, les livrets réglementés et les fonds euros des assurances-vie, pour peu que l'on s'intéresse un peu au marché monétaire. Alors reprenons. Entre la fin de 2019 et la fin de l'année 2023, le marché obligataire français a perdu 38% de sa valeur en termes réels. C'est le plus gros krach obligataire depuis environ 50 ans. En cause, la remontée des taux d'intérêt qui a fait s'effondrer la valeur des anciens titres de dette française. Et oui, lorsque vous avez un titre de dette envers l'État français que vous avez payé 100 et qui rapporte 1%, sa valeur de rachat sur le marché s'effondre si le marché peut acheter de nouveaux titres de dette de l'État français qui sont rémunérés 2%, puisqu'un nouvel investisseur sur ce marché préférera gagner 2% plutôt que 1%. C'est pour cela que la valeur d'une obligation est inversement corrélée au taux d'intérêt de la banque centrale du pays concerné. Donc, quand les taux montent, la valeur du marché obligataire baisse. Cet effondrement du marché obligataire, nous en parlons depuis longtemps sur cette chaîne. Dans cette vidéo de février 2020, la prévision était simple. Dès lors qu'un assureur ou une banque qui a fondé le rendement de ses produits d'épargne sur la constitution d'un stock d'obligations d'État sur le long terme subit le poids de toutes les anciennes dettes non arrivées à échéance, tandis que le marché peut acheter de nouvelles dettes émises par la France à un taux plus élevé, eh bien ça ne marche plus. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Les fonds euros des assurances-vie ont un rendement sur 2023 de 2,5%. Alors que le taux directeur de la Banque Centrale Européenne est de 4. Alors non seulement votre assurance vie vous a rapporté 37% de moins que ce que la Banque Centrale Européenne aurait pu vous donner, mais en plus on ne compare pas du tout la même chose. Le taux de la Banque Centrale Européenne est un taux sans risque, dit monétaire, que vous pouvez obtenir en achetant n'importe quel ETF issu de sociétés de type BlackRock et autres Vanguard par exemple. Je ne leur fais pas spécialement de pub, c'est juste les plus gros que tout le monde connaît. Le taux de 4% est clairement affiché. Pourquoi je dis sans aucun risque? Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des fonds déposés à la Banque Centrale. Or, la Banque Centrale étant l'ultime garant de la valeur de l'euro, s'il arrive quelque chose à la Banque Centrale, votre billet de banque sous votre matelas souffrira autant que votre fonds de trésorerie à court terme. Je le répète donc, car certains ont du mal à le comprendre, des euros à la Banque Centrale à court terme sur des obligations à 3 mois n'ont aucun risque supplémentaire par rapport à du cash. C'est pour cela que tous les calculs en finance sont faits en cash excess return, c'est-à-dire que l'on compare une performance par rapport au taux de rémunération de la monnaie. Dit autrement, aujourd'hui, si vous faites moins de 4% de rendement, vous avez un taux d'intérêt négatif. Vous n'avez pas non plus de risque de contrepartie sur l'opérateur car des gros comme BlackRock ne possèdent pas les fonds que vous leur donnez lorsque vous achetez leurs produits. Ils gèrent cet argent pour vous, mais sur un compte séparé de leur bilan. Il n'y a donc pas non plus de risque de contrepartie. C'est vraiment sans risque supplémentaire par rapport à un billet de banque dans votre poche. Par contre, votre billet de banque dans votre pantalon n'a pas un rendement de 4%. C'est là toute la différence. Par contre, et là c'est très important, lorsque vous possédez les mêmes obligations d'État dans le fonds euro d'une assurance vie, donc au travers d'un assureur, vous courez le risque des lois Solvency qui prévoient qu'en cas de grisou, les assureurs peuvent refuser de vous rendre votre argent car cela les mettrait en péril. Dans un ETF, sur un compte titre, vous n'avez pas ce genre de risque car votre argent n'est pas chez un assureur ou chez BlackRock, il est à la banque centrale. Ce n'est pas du tout la même chose. Regardez bien, je n'invente rien, c'est écrit partout. En cas de problème important, mettant en danger votre assureur ou votre banque, des lois prévoient que votre argent puisse être bloqué purement et simplement. C'est la loi Sapin pour les banques et les lois Solvency au niveau européen pour les assureurs. Pourquoi ? car des fonds euros ou des dépôts à la banque sont des prêts que vous faites à ces institutions. Ce n'est plus votre argent, c'est votre créance, et ça, ça change tout. Bien, avançons sur le sujet. Le risque de contrepartie n'est pas le seul quand on compare le taux BCE au taux des fonds euros. Dans votre fonds euro, la maturité des obligations que vous achetez est d'environ 7 ans. Cela signifie qu'il faudra attendre de nombreuses années avant que votre fonds euro ne profite des obligations émises l'année dernière avec un rendement de 3% pour des obligations à 7 ans. Alors si le chiffre de 3% vous surprend, car je viens de vous dire que la BCE avait une rémunération à très court terme à 4%, eh bien vous avez raison d'être choqué. C'est normal que vous soyez surpris, car normalement ce que l'on appelle la courbe des taux donne une valeur supérieure aux obligations de 7 ans plutôt que de 3 mois. Car dans une obligation à 7 ans, vous prenez le risque du temps. Mais là, la France a un problème. Les investisseurs pensent que la croissance de long terme de la France est d'environ 0%, une fois que l'on retire l'inflation d'environ 3%. Donc ils ne sont pas prêts à payer le prix du temps à 7 ans pour une dette d'État française au-delà de 3%. Et je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est un phénomène qui traduit qu'aujourd'hui, les étrangers préfèrent détenir de la dette à très court terme, donc du cash, car ils ne croient pas en l'avenir économique de la France. Comme la Banque centrale veut tout de même lutter contre l'inflation, les taux de court terme se retrouvent au-dessus des taux à plus long terme. Dans cette situation assez terrible, même si votre assureur vous propose un tout nouveau fonds euro avec un rendement actuel qui ne subit pas le poids du passé, il vous servirait toujours 25% de rendement de moins que le marché du cash sans risque.
Ah !
Maintenant, vous comprenez pourquoi le gouvernement français s'inquiète fortement sur l'équilibre budgétaire de la France pour cette année. Le risque, c'est que la France se retrouve sans financement pour rouler sa dette. Nous parlons à minima de 300 milliards pour le budget de l'État, comme on l'a dit précédemment. Mais alors, comment est-ce que les assureurs tiennent encore la rampe si l'actif fondamental qui soutient leur activité fait perdre de l'argent à leurs clients ? Eh bien, j'ai posé cette question à mon entourage et voici les grandes réponses que j'ai obtenues lorsque je leur ai demandé « Pourquoi est-ce que vous ne passez pas sur des ETF de trésorerie à court terme ?» Première réponse, « Si je retire mes sous de mon assurance vie, je perds mes avantages fiscaux que j'ai mis plusieurs années à valider. » Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, avoir un avantage fiscal sur un produit financier qui se casse la figure, bah, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, j'imagine que, comme me le disait Charles Gave, les Français ont du mal à résister à un mauvais avantage fiscal. Deuxième grande réponse que j'ai obtenue, pour faire simple, les gens ne savent pas où mettre leur argent en sécurité. Lorsque je parle des fonds de trésorerie à court terme dans des ETF, beaucoup de mes voisins me regardent avec des grands yeux ronds en me disant « Mais de quoi ils me parlent ?» Il y a donc un vrai problème de compréhension de ce qu'est le marché monétaire. Alors allons-y. Vous avez tous vu ce type de schéma qui vous explique qu'un dollar, ou un euro d'ailleurs, a perdu 95% de sa valeur sur un siècle. Eh bien, cette façon de voir les choses est fausse. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous aviez laissé un billet de 1 dollar sous votre lit, ou sur un compte courant à la Société Générale, ce qui revient à peu près au même, vous auriez effectivement perdu 95% de la valeur de cet argent. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce schéma est faux ? Parce que ce n'est pas le dollar qui s'est déprécié. Non. Dans ce cas, vous avez perdu 95% de votre argent par négligence et par manque de connaissances, et aussi par roublardise de votre banquier, on va y venir. Laisser du cash sous votre lit ou sur votre compte courant, c'est ne pas comprendre que le cash est un moyen de paiement et non une épargne. Et oui, en mettant votre dollar à la banque centrale à court terme via des fonds de trésorerie, vous auriez conservé le pouvoir d'achat de votre dollar sans aucun risque supplémentaire. Lorsque je dis ça, certains me répondent que je confonds une épargne sans risque avec un placement. Vous avez maintenant compris que c'est faux. Et pour le prouver une deuxième fois, sachez que lorsque vous laissez votre argent sur votre compte courant, les intérêts de la banque centrale sont bien versés, les 4% dont je vous parlais. C'est juste que la banque ne vous les donne pas et les garde pour elle. Donc laisser son argent sur un compte courant au lieu de demander à votre banquier de vous ouvrir un compte-titre tout bête et de disposer d'une ligne où mettre votre cash en attente, c'est juste de l'ignorance financière. En France, l'argent retenu par les banques par méconnaissance du grand public de ce mécanisme représente environ 40 milliards d'euros par an.
Combien ?
Les épargnants français, donc vous, faites un cadeau de 40 milliards par an aux banques.
Mais dis-moi pas que c'est pas vrai !
Mais ce n'est pas tout. Maintenant que vous avez compris qu'avec votre compte courant, vous prenez le risque de la contrepartie de la banque en cas de difficulté financière de celle-ci, alors vous auriez même évité ce risque en passant par votre ETF préféré sur votre compte titre. Et aujourd'hui, il n'y a aucune excuse à ne pas le faire car les frais de transaction et de gestion grâce aux ETF de ces fonds qu'on appelle de trésorerie se sont littéralement effondrés. C'est pour cela qu'il faut garder en tête que le dollar, l'euro et l'or ont exactement la même valeur sur le long terme. Voici le graphique qui le prouve. Après, évidemment, en détenant de l'euro par rapport à l'or, vous prenez le risque de la faillite de la monnaie en elle-même. Ça, c'est vrai, car il est fort probable que l'or survive à l'euro et au dollar puisque ça fait 5000 ans qu'il est là. Mais fondamentalement, tant que le dollar tient et tant que l'euro tient, le rendement est le même que l'or tout simplement parce que le marché va arbitrer sur les taux d'intérêt, tout simplement. Alors un coup il est au-dessus, un coup il est en dessous, et c'est ce qu'on voit sur le graphique, il y a des cycles et on peut jouer éventuellement sur ces cycles. Mais là, on rentre dans des stratégies élaborées de gestion de son argent. Mais maintenant, revenons-en à nos problèmes d'assureurs en France, car on n'a pas fini le tour du musée des horreurs. Il faut également savoir que les assureurs ont des réserves financières importantes, car ils doivent avoir du cash pour assurer leurs clients en cas de sinistre, mais ils doivent aussi avoir du cash que l'on appelle des provisions pour assurer le rendement des fonds euros sur les contrats d'assurance vie. Ok, parfait. Par contre, sachez que l'essentiel de ces provisions sont constituées d'obligations immobilières et d'obligations françaises. Donc, les réserves des assureurs ont pris un coup sur le nez très sévère suite à la crise immobilière en cours et de notre fameux krach obligataire. Comment cela peut-il se traduire? Quelles conséquences cela peut-il avoir? Tout d'abord, les réserves étant moins grandes, les rendements des assurances-vie pourront être boostés moins longtemps pour combler l'écart entre le marché et ce que peuvent servir les assureurs. Dernier point très important, toutes ces considérations sur la dette ne tiennent qu'à partir du moment où l'État français est capable, non pas de rembourser sa dette, c'est un objectif inatteignable, mais du moment que la France est capable de continuer à rembourser les intérêts de la dette. Or, si les taux d'intérêt restent élevés avec un déficit budgétaire important, soit la France coupe son déficit pour servir la dette, soit elle fait défaut d'une façon ou d'une autre. Donc pour résoudre ce problème, la France, comme je le disais en introduction, semble bien mettre le cap sur une forme d'économie de guerre. Or, économie de guerre est synonyme de déficit, puisque par définition, en cas de guerre, on brûle le capital du pays, quoi qu'il en coûte, là pour la peine c'est le cas de le dire, car il s'agit d'une question de survie de la nation. On n'est donc clairement pas sur une réduction de quoi que ce soit, sauf pour préserver les apparences et gagner du temps. Reste donc à savoir comment les intérêts de la dette seront payés si les acheteurs étrangers n'en veulent plus dans ces ordres de grandeur. La seule réponse qui a toujours fonctionné, c'est la planche à billets sous toutes ses formes. Or, à notre époque, la planche à billets, c'est la Banque Centrale Européenne. Certains pensent que dans ce cas, l'euro pourrait y passer, parce que d'un côté, on va avoir une hausse des déficits et normalement, les traités ne supportent pas qu'il y ait d'aussi grands écarts entre les différents pays de la zone euro. Et dans un monde normal, oui, l'euro devrait y passer car il n'y a pas de solidarité budgétaire entre les différents pays de la zone euro. Mais le problème, c'est que l'Union européenne n'évolue plus dans un monde normal depuis 2008, et plus précisément depuis la grande crise de la dette dans les années 2010, à partir du moment où Mario Draghi a déclaré que l'euro serait sauvé, quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que ça signifie « quoi qu'il en coûte » dans la bouche de Mario Draghi quand il est gouverneur de la Banque Centrale Européenne en 2012 ? Eh bien qu'ils sont prêts à tout sacrifier pour sauver une monnaie, un outil donc à la base, qui est devenu une idéologie politique. Et bien sûr, il faut comprendre par « tout sacrifier » principalement votre liberté et votre épargne. Cela se traduit directement par une fuite des capitaux hors de France, dont j'étais un observateur indirect jusqu'à ce que je parte en Suisse via mon réseau de connaissances dans la finance, mais dont je deviens un témoin direct depuis 2021. Pour être encore plus concret, quand je suis parti de France, de plus en plus de clients de ma lettre d'investissement m'ont écrit pour me parler de leurs expériences. Portugal, Espagne, Dubaï, Belgique, Luxembourg, Andorre, Suisse et bon nombre d'autres pays accueillent beaucoup de riches qui ont quitté la France par dépit. Cette année, avec Data Factory, notre entreprise qui monte et exploite des fermes de puissance industrielle aux États-Unis, nous avons levé 9 millions de dollars en actions avec un ticket minimum de 500 000 dollars. Tous les investisseurs sont des francophones, des Gaulois, et l'écrasante majorité d'entre eux ont quitté la France. Soit ils sont français à l'étranger, ou alors ils ont même rendu leur passeport. Une personne très riche que je connais m'a ouvertement dit « Tu sais Richard, la nationalité française, c'est à mettre au passif de ton bilan. » Je vous raconte tout ça pour illustrer les dégâts profonds que subit la France à chaque crise mal gérée qui survient. Lorsqu'un Mélenchon qui arrive troisième aux élections présidentielles déclare que les riches font le malheur des pauvres et que ce sont des parasites, eh bien les riches entendent le message et s'en vont. Lorsqu'une Sandrine Rousseau tweete calmement « Taxons les riches jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus », eh bien les riches entendent également le message et s'en vont ailleurs. N'y voyez aucune morale et aucun jugement, ne cherchez pas à savoir si c'est bien ou si c'est mal. Si je vous dis tout cela, c'est pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent. C'est beaucoup plus important que de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce que je vois, et vous en penserez ce que vous voudrez, c'est que des gens normaux comme mes parents ont toujours une assurance vie en fonds euros alors que les riches n'en ont plus depuis belle lurette. Ce que je vois, c'est qu'en France, de nombreux patrons préfèrent vendre leur entreprise au rabais pour en être libérés, et souvent quitter la France derrière, car ils en ont ras-le-bol d'être pointés du doigt en permanence. Ma dernière formation sur l'expatriation, Expat Plus, rencontre un énorme succès. Mes clients sont ravis de pouvoir retrouver l'espoir en préparant un éventuel plan B, loin de cette situation compliquée. En attendant, si vous n'êtes pas intéressé par l'expatriation, cherchez quand même à comprendre ce qui se passe pour que vous puissiez recontextualiser votre projet de vie dans le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'il est fantasmé par tel ou tel parti politique. Même les entreprises du CAC 40 sont parties. Elles réalisent 60% de leur chiffre d'affaires en dehors de France. Donc lorsqu'un Raphaël Glucksmann lance à la cantonade qu'il suffirait de prendre les profits des entreprises du CAC 40 pour financer je ne sais quoi de très juste et de très moral à n'en point douter, certes, mais ce sera un fusil à un coup.
Je crois que j'ai été touché.
Ce que je veux vous montrer, c'est que les riches s'en sortent toujours car ils savent s'adapter et faire ce qu'il faut pour conserver leur richesse ou la développer car ils ont l'information à leur disposition. Ce graphique ne vous parle peut-être pas, mais à moi, il me parle très fort et à beaucoup de gens qui ont de l'argent également. Il vous dit clairement que les investisseurs étrangers se désengagent de la dette française et qu'ils préfèrent également la dette de court terme quand ils sont obligés d'avoir de l'euro. Vous savez maintenant qu'il s'agit du cash. Donc pour être encore plus clair, ils préfèrent désengager leur argent d'un quelconque pari sur la croissance de la France et lorsqu'ils ont des clients, un business ou des obligations qui les obligent à avoir de l'euro, eh bien, ils le mettent en cash à la BCE. Et vous voyez que c'est une tendance de long terme, puisque là, le graphique part de 2004 à 2023. Il ne s'agit pas simplement d'une question de courbe des taux inversée qui pourrait ne durer que 6 mois ou 1 an. Alors, quel est le plan des gouvernements successifs pour payer la dette, ou du moins continuer à payer les intérêts de la dette? Eh bien, il est absolument très simple, et tous les PwC et autres McKinsey de ce monde répètent le message en boucle à chaque gouvernement qui se succède. L'épargne totale des Français atteint près de 6 000 milliards d'euros hors immobilier, soit le double de la dette publique. C'est votre épargne tout simplement. Les deux tiers de 6 000 milliards, donc 4 000 milliards de votre épargne, sont placés sur des comptes bancaires et autres placements réglementés comme les assurances-vie. Cela me révolte car je vois bien comment le virage se négocie. Les personnes qui ont l'information et qui en ont les moyens voient le coût arriver. Donc l'essentiel s'en va, voire est déjà parti, car ils ne veulent pas être pris dans le crash, tandis que les divers gouvernements jouent la montre pour éviter de se confronter à la réalité, tout en sachant que leur porte de sortie, c'est votre épargne. Et pas celle des riches, mais celle de la classe moyenne, des gens normaux. Et tout cela prend du temps, le temps de consommer les ressources du pays. Je ne crois donc pas à un effondrement de l'euro aujourd'hui car il y a encore 4 000 milliards d'épargne immédiatement saisissables grâce aux lois Sapin et aux règlements européens Solvency 1 et Solvency 2 pour que vous puissiez être leur collatéral. Pourtant, même sans quitter la France, il y a des choses à faire. Je viens de vous en donner une dans cette vidéo. Débancariser votre argent pour la mettre tout simplement sur un ETF de fonds de trésorerie à court terme par exemple. Mais vous pouvez aussi acheter de l'or que vous pouvez stocker en dehors des coffres du système bancaire. Et en toute légalité. Vous pouvez également acheter des actions qui sont des titres de propriété. Vous pouvez faire des prêts directs à des entreprises de moyenne taille pour les aider à développer leurs affaires et par la même occasion avoir une créance directe sur ces entreprises en dehors du système financier. Il y a tant de choses à faire. Vous pouvez avoir l'impression que je ne parle que des riches, mais ce n'est pas vrai. Des solutions existent pour les petits patrimoines. Après de nombreuses demandes, on a créé le protocole XBX, notre protocole d'exfiltration bancaire express. Une formation qui vous ouvre une sortie de secours du système bancaire en crise en 6 étapes simples et rapides. En quelques jours et même quelques heures pour les deux premières étapes, vous pouvez mettre votre argent à l'abri des banques européennes et reprendre le contrôle de votre capital. Avec le protocole XBX, il est possible d'ouvrir un compte hors de la zone euro et de l'investir facilement pour se protéger de l'inflation. Le protocole XBX est fait pour ceux d'entre vous qui disposent d'un capital modeste allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Vous trouverez toutes les informations dans la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sachez également que pour conserver votre épargne aujourd'hui, eh bien c'est 4% de rendement minimum qu'il faut que vous fassiez, pour des placements en euros s'entend. Sachez que le coût de l'argent pour une entreprise, c'est plutôt de l'ordre de 8 à 10%. L'or sur les dernières décennies, c'est environ 6 à 8% de rendement. Vous pouvez donc prêter à ces taux-là. Enfin, avec Data Factory, on a emprunté 15 millions d'euros avec des taux allant de 10% à 12,5%. Alors quand je vois que les banques proposent des livrets à terme où votre argent est bloqué jusqu'à 5 ans pour tirer du 5% tout mouillé, et j'en pense pas moins. En 2018, quand j'ai réellement démarré cette chaîne YouTube, je vous annonçais que les choses deviendraient compliquées. Et aujourd'hui, sachez qu'elles le sont devenues. Alors prenez soin de vous et occupez-vous de vos affaires vous-même, car soyez bien conscient que les structures collectives ne remplissent plus leur rôle. Si tout cela vous semble assez lointain, flou, prenez le service public que vous connaissez le mieux, que ce soit l'école, l'hôpital, la police ou que sais-je, et dites-vous bien que dans la banque et les assurances, la tendance est la même. Pour en savoir plus sur le processus que la France a amorcé depuis 50 ans et comment il va se terminer, allez voir cette vidéo où je vous montre que la phase de déclin que la France vit aujourd'hui est tout sauf une exception dans l'histoire. Il s'agit de phases bien décrites et bien connues par ceux qui s'y intéressent.